Rush! Schäfer in Rush! 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 Schäfer in Rush! Oh, c'est les Twisted Sisters. Eux autres, ça fait pas trop de peine, par exemple, qu'ils soient disparus, je pense. Je vais dire salut à Dave. Je vais dire salut à Isabella.
Salut.
Hey, ça va bien? Est-ce qu'on est en forme pour la deuxième partie du Schtroumpf magicien?
Oh. Bien sûr.
Excellent. Ça va être assez bon. On l'a pour plus tard pour vous dans l'émission. 24 novembre, la période du temps des fêtes est officiellement lancée. Parce qu'on a vu l'autre jour des publicités Canadian Tire de Noël.
Oh. C'est vrai. Pas avec gratteux de petits prix.
Non, il est fini, lui. Je pense qu'il est mort pour vrai, gratteux.
Heureusement.
Mais c'était seul avec le couple infect, là, c'est qu'il veut pas s'en aller, là, tu sais. que leur réponse à tous les problèmes de leur existence, c'est du Mastercraft.
Ouais, une belle drill.
C'est ce qu'on les aime. À part de ça, toujours pas le moindre signe de hockey à l'horizon. Qu'à cela ne tienne, on va aller en fin de semaine, moi, Nesrim, Stéphane et la toujours très charmante Isabella Falstead, voir les Dragons de Verdun contre les Chiefs de je sais pas où. On va essayer de ramener de l'audio juteux, ça devrait être assez solide. Sinon, il y a le show des Pixies vendredi. Je pense que je vous en ai déjà parlé, hein. Je pense que j'ai hâte en esti, hein. Ouais, je pense. Vous les connaissez peut-être, les Pixies. C'est le groupe qui a inspiré Nirvana. Fait que moi, mes trois frères, on va aller voir ça. Ça va brasser en sapristounet les quatre frères Godette au même show. Sinon, salut aux Mrs. Oud Aubin, côté Godette et Duquette. Peut-être que vous avez des salutations à faire, les amis, c'est le temps.
Et voilà.
Et là, c'est plus. Là, j'avais pas vraiment d'inspiration pour une phrase spirituelle de début d'émission. À la place, je vais rappeler à la personne qui a intelligemment graffiti-isé dans le local A2880, les profs sont des cons qui veulent vous endoctriner, qu'il n'est pas obligé de venir à l'université. C'est vrai, il a vraiment écrit ça. En tout cas, le droit à la manifestation, c'est quelque chose de précieux, mais faut pas en abuser. On finit le show de la semaine passée en commençant, c'est-à-dire en parlant de religion et d'inquisition. La fin du fabuleux conte fantastiquement magique, le Schtroumpf magicien. On va parler de Paper Mario 2, puis on va parler aussi de Néon Maniac. The eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe. We're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? And can't you feel the fears that I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, how you don't believe we're on the eve of destruction. Think of all the hate there is in Red China. Then take a look around to Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say grace. And tell me over and over and over. Thank you.
She says the kids are fine, that they miss me. Maybe I could come and babysit sometime. She says, are you okay? I was worried about you. Can you forgive me? I hope that you'll be happy. I said, I'm so happy that I can't stop crying. Another man, I wondered how you felt about it. I'm so happy that I can't stop crying. I'm so happy I'm laughing through my tears. So my lawyer, Mr. Good News, he got me joint custody.
C'était Sting. Sting qu'on connaît parce qu'il a fait des rôles dans une couple de films de Guy Ritchie, là, c'est-à-dire dans Lock, Stock and Double Barrel, machin, l'arnaque, crime et botanique. Il faisait le tenancier du bar. Sinon, il était dans The Police aussi. Il a fait Every Breath You Take. Puis il était dans le méchant de la fin, à la fin de Dune. Là. En tout cas, c'est quelqu'un de pas mal populaire, Sting. Je suis sûr que vous le connaissez. Personnellement, bon, on va parler de religion, hein, parce qu'on vient de mettre une toune gentille et heureuse. Fait qu'on va parler de choses un petit peu plus sérieuses. Donc, je vous avais promis ma vision personnelle de la religion, lave-la. Personnellement, je crois que la religion, le concept de spiritualité et tout le questionnement qui s'y rapporte ouvrent sur des réponses tellement fortes et intimes que le simple fait de parler de religion pervertit la chose.
Oh.
À chacun son cheminement et, surtout, rien n'est à l'abri du rire et des moqueries. Sûrement pas la créature qui se prétend parfaite. Ça, c'est celle qui est en haut, là, qui apporte le nom de Bouddha, de Dieu ou de whatever. Ou de Allah, il était à mode ces temps-ci.
Ouais, ouais, ouais.
Aussi, je ne pourrai jamais m'associer de quelque façon que ce soit à une institution pour laquelle l'Inquisition est encore considérée la Sainte Inquisition. L'Inquisition, c'est cet organisme qui, comme vous le savez sans doute, avait pour mandat de normaliser les croyances en fonction de ce que la Sainte Mère, l'Église, souhaitait. Fait que là, je vais vous lire une belle petite feuille sur le susmentionné Inquisition. Oh, musique d'ambiance! Le vent de folie qui ravagea l'Europe occidentale au cours des 15e, 16e et 17e siècles ne révéla peut-être pas l'existence de démons surnaturels, mais il mit à jour un extraordinaire tableau de monstres humains, les chasseurs de sorcières. Une confrérie pathologiquement vertueuse qui se consacrait à débusquer celles que l'on soupçonnait d'être les servantes du démon. La Bible de ces tueurs était le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, un ouvrage de sinistre mémoire écrit par deux dominicains fanatiques en 1486. Pour les auteurs du livre, aucune tromperie n'est trop tortueuse, aucune torture n'est trop extrême lorsqu'il s'agit d'arracher une confession. Le scepticisme et la modération n'ont pas leur place. Ne pas croire en la sorcellerie, disait le frontispice du livre, est la plus grande des hérésies. L'avocat philosophe français Jean Bodin, 1529 à 1596, fut l'un des plus célèbres disciples du Malleus. Probablement le premier à donner une définition juridique de la sorcière. Quelqu'un qui, connaissant les lois de Dieu, essaie de produire des effets par la puissance d'un pacte conclu avec le démon. Ouais, on s'en doutait.
Est-ce que c'est Jean Charest ou c'est ça?
Ah, peut-être. Bodin, donc, n'avait pas son pareil lorsqu'il s'agissait d'instruire une affaire de sorcellerie. De ses propres mains, il tortura de jeunes enfants et des infirmes pour leur arracher des aveux, qui devaient être très véridiques. Il déclara aussi un jour que les sorcières condamnées au bûcher mouraient trop rapidement. Ça prenait 25 minutes de mourir sur un bûcher en passant.
C'est rapidement.
Ouais, c'est vraiment vite. ouais, il y en a à peine plus d'une demi-heure. Ouais, c'est ça. En 1580, vers la fin de sa vie, Bodin écrivit un traité, le Démonomanie. Encore plus violent et insidieux que le Malleus, l'ouvrage eut d'innombrables lecteurs à l'époque. L'inquisiteur de Lorraine, Nicolas Rémy, était le contemporain de Bodin. S'il n'avait pas ses capacités intellectuelles, il n'avait rien à lui enlever quant à sa talent de juge d'instruction. Pendant les 15 années de sa carrière, il fit exécuter environ 900 personnes en 15 ans. Quand son fils aîné mourut en 1582, Rémy soupçonna naturellement un acte de sorcellerie. Il fit donc accuser et condamner une mendiante qu'il avait éconduite peu de temps auparavant. Ouais, c'est logique. Comme l'explique Rémy, les sorcières ont une manière des plus fertiles d'appliquer leur poison, car, s'en étant enduit les mains, elles se saisissent des vêtements d'un homme comme pour implorer et s'attirer ses faveurs. Ouais. Rémy se retira comblé d'honneur et écrivit un livre où il nous fait part du grand regret de sa vie, celui de ne pas avoir tué davantage d'enfants sorciers. Bon, chacun ses perversions. Le plus meurtrier des chasseurs de sorcières fut un certain Peter Binsfeld, évêque suffragant de Trèves en Allemagne à la fin du 16e siècle. Formé à l'école des Jésuites, Binsfeld poursuivit les sorcières sans relâche, soutenant qu'une torture légère n'était pas une torture. Il aurait été responsable de la mort d'environ 6500 hommes, femmes et enfants. Son traité de confession des malfaiteurs et sorciers fut considéré par un grand nombre de ses contemporains comme l'un des plus grands ouvrages juridiques du temps. À l'époque, bien peu de voix osaient s'élever contre celle de cette sanglante entreprise. Lorsque l'humaniste, Cornelius Loof, horrifié par l'énormité de la sauvagerie de ces meurtres que sanctionnait le pouvoir judiciaire, tenta de protester au nom de l'humanité, il fut condamné et dut se rétracter publiquement. La plupart des chasseurs de sorcières croyaient sincèrement dans le bien fondé de leur entreprise meurtrière, ce qui ne rend pas moins horrifiant aujourd'hui leur logique dévoyée. Dévoyée, qu'est-ce que c'est ça ce mot-là? Leurs préjugés sans bornes et leur méthode inhumaine. Henri Boguet, 1550 à 1619, magistrat français qui aurait exterminé environ 600 sorcières, était par exemple capable de faire condamner une suspecte dévote du seul fait que le crucifix sur son rosaire présentait un léger défaut. Indication claire pour Boguet qu'elle était de mèche avec le démon. Pierre de Lancre, chasseur de sorcières dans le Pays Basque, au temps du roi Henri IV, était lui aussi fort habile à découvrir le satanisme. Pour des raisons obscures, mais qui semblent témoigner d'une obsession sexuelle morbide, de Lancre acquit la conviction que les 30 000 habitants du pays de Labour étaient des sorciers. Les 30 000 habitants du pays de Labour étaient des sorciers. Lorsque la nouvelle se répandit, des milliers de personnes prirent la fuite, certains jusqu'à Terre-Neuve, pour éviter le désastre qui s'annonçait. Dans l'espace de 4 mois, Delancre fit brûler 600 de ceux qui restaient, puis retourna en triomphe à Paris, où il fut nommé conseiller par Henri IV. Le plus célèbre des chasseurs de sorcières anglais était un avocat sans cause du nom de Matthew Hopkins. À la différence de certains de ses collègues du continent, Hopkins, dont l'heure de gloire fut assez brève, ne parvint à tuer que quelques centaines de personnes au cours des années 1640. Comble d'infortune, un décret du Parlement l'obligea à abandonner la méthode qu'il utilisait pour identifier les sorcières et qui consistait à jeter les suspectes garrottées dans un lac ou une rivière. Si les suspectes flottaient, c'est qu'elles étaient coupables. Sa mémoire est cependant particulièrement odieuse. Accompagné d'un groupe d'aide, ce personnage qui se faisait appeler le grand découvreur de sorcières sillonnait la campagne pour soutirer de l'argent aux autorités terrifiées sous prétexte de les débarrasser de sorcières. Il utilisait avec succès une forme de torture qui consistait à forcer ses victimes à marcher sans nourriture ni sommeil jusqu'à ce qu'elles avouent leur crime. On les adore. Vraiment, on les adore. J'aime beaucoup le bout où si tu flottes, c'est parce que t'es coupable. Ça, ça veut dire que si tu coules...
Ben, tu t'en vas au ciel, directement.
Ben c'est ça. En tout cas, hein, c'était le bon vieux temps, ça. On va essayer de se remonter le moral avec quelque chose qui est assez guilleret. À
on
tantôt.
Veut des roches encore.
Comment t'as dit?
On veut des roches encore.
Ouais, c'est ça. On veut des roches. Ouais, c'est pas ça pendant tout.
Ah, oh, merci.
Ouais, ça y va, là, ça y va.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Check ignition and may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. Parce qu'on est qu'un et qu'on est tous dessus.
sous nos yeux. Elle nous convient car c'est la mienne. Que j'y suis bien et qu'on est tous dessus.
On est de retour en studio, on vit des aventures fabuleuses. C'est maintenant l'heureux moment de la présentation de la deuxième partie et de la conclusion du gentil et attendrissant conte, le Schtroumpf magicien.
Yeah!
Isabella toujours dans le rôle du Schtroumpf maladroit, David dans celui des autres Schtroumpfs, notamment le grand Schtroumpf qui va avoir une grosse partie cette émission aussi. Et... Bon, en plus, qui c'est qui a jamais rêvé d'être dans la peau du grand Schtroumpf, hein?
C'est la barbe, hein?
C'est la barbe, sûrement, le sex appeal, tu sais. Et moi, bien sûr, dans celui du narrateur. Avant de commencer, j'ai utilisé la toune en anglais pour deux raisons, à mon sens, très nobles. La première, faire chier les pro-francophones puristes. Et la deuxième, faire écouter quelque chose que tout le monde ne connaît pas encore par cœur.
Can be.
Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you.
Then smirk yourself a grin.
Ooh, I hate smurfs. I'll get you. I'll get all of you if it's the last thing I ever do.
Ah là là, les amis, la semaine passée, petit résumé, le Schtroumpf maladroit, qui se met dedans à chaque fois, a essayé de devenir magicien pour se développer des pouvoirs magiques secrets, lui permettant ainsi de plus être le Schtroumpf maladroit, parce qu'on peut commencer à s'en vouloir si notre personnalité, c'est d'être maladroit. C'est son nom, en plus. Donc, on était rendu chez Gargamel. Un bruit de pas retentit au dehors. Gargamel et son chat reviennent. Le petit Schtroumpf s'empresse d'arracher une page du grimoire au hasard, la roule et la serrant sous son bras, bondit par la fenêtre. Ouf! Juste à temps, le sorcier pénètre dans la pièce. De retour chez lui, le Schtroumpf maladroit rassemble les ingrédients de la recette magique. Il suit bien attentivement toutes les instructions, fait bouillir son mélange et laisse reposer, le remet sur le feu, puis le laisse refroidir.
Je me demande bien ce que cette formule magique va schtroumpfer,
se dit-il. Alors, rassemblant tout son courage, il verse un peu de la préparation dans un gobelet et avale la mixture d'un seul trait.
Mais que se passe-t-il? Ma peau devient toute verte. J'ai des écailles et ma queue s'allonge comme celle d'un lézard. C'est affreux! Au secours! Au secours!
Quelques schtroumpfs, attirés par le bruit, s'enfuient en le voyant surgir de chez lui. La formule magique la change en monstre! Le schtroumpf maladroit court en pleurant vers le grand schtroumpf. À sa voix, celui-ci le reconnaît facilement.
Mais que s'est-il passé? Comment cela s'est produit?
C'est à cause de la formule magique de la Gargamel. J'ai bu la mixture et voilà le résultat!
Sanglote le schtroumpf maladroit.
Une formule de Gargamel? Mon pauvre Schtroumpf maladroit, comment as-tu pu permettre une pareille imprudence? Bien, nous allons tenter d'arranger ça.
Mais c'est en vain que le grand Schtroumpf essaie ses onguents, ses infusions et ses passes magnétiques. Le Schtroumpf maladroit reste vert. Ses écailles et sa longue queue ne disparaissent pas. Pire! pire encore. Après avoir absorbé l'un des remèdes du grand Schtroumpf, il se met à cracher des flammes comme un vrai dragon. Maintenant, dans le village, tout le monde évite le Schtroumpf maladroit. Il doit se contenter de regarder les autres jouer à la balle, car personne n'accepte de s'amuser avec ce monstre couvert d'écailles. Pauvre Schtroumpf maladroit, il erre tristement. Et soudain, il prend une grande décision. Il rentre chez lui et écrit un mot qu'il épingle sur sa porte. Un peu plus tard, le grand Schtroumpf lit avec étonnement.
Cher grand Schtroumpf, personne m'aime. Puisque c'est une formule de Gargamel qui m'a mis dans l'état où je me schtroumpf, je vais aller chez lui schtroumpfer la formule d'un antidote. Signé, le Schtroumpf maladroit.
Le grand Schtroumpf interrompt aussitôt la partie de balle.
Venez tous, le Schtroumpf maladroit est en danger. Il est parti chez le sorcier Gargamel. Vite, formons une équipe de secours pour le schtroumpfer les griffes de ce vilain bonhomme et de son chat.
Quand les Schtroumpfs arrivent à la rescousse, ils constatent qu'en effet, Gargamel a capturé le petit Schtroumpf et qu'il l'a enfermé dans une cage. Le chat Azrael, plein d'appétit, se pourlèche les babines en tentant de glisser sa patte griffue entre les barreaux. Gargamel hurle.
Non, Azrael, ce petit voleur n'est pas pour toi. C'est moi qui vais lui apprendre à chipper les formules.
À ce moment, la voix du grand Schtroumpf tonne.
Laisse Schtroumpf, Gargamel. Tu auras affaire à nous. Schtroumpf de malheur, je vais vous capturer et vous donner une leçon que vous n'oublierez pas.
Gargamel se précipite sur eux, mais les Schtroumpfs sont plus agiles et plus malins qu'ils ne croient. Ils lui échappent sans difficulté et même parviennent à le faire trébucher. Il tombe à moitié assommé. Des Schtroumpfs perchés sur une étagère en profitent pour déverser sur lui une marmite remplie d'un mélange de glu et d'amidon. Gargamel ne peut plus faire un seul geste. Le Schtroumpf maladroit est enfin libéré de sa cage. Il ne reste plus qu'à trouver dans les grimoires de Gargamel la formule qui lui rendra sa forme première.
La voilà!
Dit le grand Schtroumpf.
J'ai tous les ingrédients en main, sauf...
Il se tait un moment, puis ajoute...
Sauf trois poils du bout de la queue d'un chat. Le seul chat des lieux à la ronde est le sournois Azrael. Il faut lui arracher trois poils de la queue et ça ne sera pas facile.
Pourtant, courageusement, le Schtroumpf maladroit réussit cet exploit après un combat sans précédent. Vite, le grand Schtroumpf prépare la poudre magique. Encore plus vite, il la projette sur le Schtroumpf maladroit. Ding-a-boom-bang! Il y a comme une explosion d'étoiles et le Schtroumpf maladroit redevient un petit Schtroumpf bleu. Les Schtroumpfs se précipitent au dehors. Il était temps! Gargamel, fou de rage, est parvenu à se débarrasser de la couche de glu et d'amidon qui le paralysait. Plus que jamais, il est bien décidé à capturer tous les petits êtres bleus. Mais il est trop tard. Ceux-ci ont disparu dans la forêt. De retour au village, les Schtroumpfs acceptent de jouer à la balle avec le Schtroumpf maladroit. Mais celui-ci fait un faux mouvement et la balle atterrit dans un pot de gelée de groseille. Les joueurs en sont éclaboussés de la tête aux pieds.
Oh, je suis désolé. Je ne l'ai pas schtroumpfé exprès.
Balbutie le Schtroumpf maladroit.
Ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave.
Dit le Schtroumpf farceur.
D'ailleurs, tiens, voilà un cadeau pour toi.
Un cadeau? Pour moi? Qu'est-ce que c'est?
Tous les autres Schtroumpfs se bouchent les oreilles. Ils savent que les cadeaux du Schtroumpf farceur sont souvent explosifs. Mais non, pas cette fois. Dans le paquet, il y a un gros gâteau sur lequel est écrit de la main de la Schtroumpfette.
Pour le Schtroumpf maladroit, parce qu'on l'aime bien malgré ses maladresses.
Et le Schtroumpf maladroit est très content que tout se termine ainsi. Oui! C'est tellement touchant! Est-ce que vous avez déjà réalisé que la personne qui a créé, inventé, imaginé les Schtroumpfs, ces petits lutins bleus, toutes pareilles, qui vivent dans des champignons géants, eh bien, la personne qui a inventé ça s'appelle Peyo. Oh! Ouh. Ça fait penser à quelque chose aussi, hein? Maintenant, je vous laisse aux soins de David, qui a une belle fable pour nous.
Ben oui, j'ai une petite fable politique pour vous, tout le monde. Fait que j'espère que vous allez apprécier. Ça va être assez court, mais c'est tiré d'un livre qui s'appelle « La ferme des animaux ». Je vais vous résumer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à l'heure où ma fable commence. C'est un certain 21 juin, en Angleterre, la révolte des animaux. Les cochons dirigent un nouveau régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement. Tous ceux qui sont sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre pattes et possède des ailes est un ami. Aucun animal ne portera de vêtements, aucun animal ne dormira dans un lit, aucun animal ne boira d'alcool, aucun animal ne tuera un autre animal. Et tous les animaux sont égaux.
Et donc voilà que déjà depuis un bon moment, les animaux ont rejeté et ont pris le contrôle de leur ferme. Et à un certain moment, à force d'organisation, surviennent des problèmes et on commence à ce moment-ci, c'est l'heure des récoltes et voilà que ma fable commence.
OK.
Les animaux s'attendaient au partage équitable de ce qui semblait aller de soi. Un jour, néanmoins, ordre fut donné de ramasser les pommes pour les apporter à la sellerie au bénéfice des porcs. Les cochons qui étaient Snowball et Napoléon, cochons en chef,
les
évidemment.
Leaders, ben oui.
Tous les cochons étaient sur ce point entièrement d'accord. Sur Napoléon et Boule de Neige, entre autres. Et ce fut Bri-Babil, le cochon délégué, en fait.
Le cochon délégué. Bri-Babil?
Oui, Bri-Babil, qui fut chargé d'explications nécessaires. Parce qu'on se demandait où s'en allaient les pommes et comment ça se fait que les pommes étaient données aux cochons.
Ben oui, c'était plus équitable.
Ben, on peut se poser la question, ça. Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme et nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes, parce qu'ils n'avaient pas seulement saisi les pommes, ils avaient saisi le lait. Oh. C'est mon propre cas. Si nous les approprions, c'est par souci de santé. Le lait et les pommes, ainsi que les camarades que la science démontre, renferment des substances indispensables au régime alimentaire des cochons. Oh. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien. Et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'adviendrait si les cochons devaient faillir à leur devoir? Jones reviendrait.
Oh.
Savez-vous qui c'est, Jones?
Ça devait être le fermier, ça.
Exactement.
Oh, okay.
Intelligent, petit monsieur.
Oh, yes, oh, yes. Il est à con, ça. C'est pas
il est à con, ça. Et voilà, ben ça se finit presque comme ça, ma femme, mais en fait, ça se finit par un nouveau règlement qui sera inscrit par la suite. Tous les animaux sont égaux, mais il semble, et cela a été rajouté sur les règlements, qu'il y en a qui soient plus égaux que d'autres.
Oh, la belle phrase, hein, ça fait réfléchir.
Ah, ça fait réfléchir.
Ben, je vous remercie
c'est
beaucoup,
intelligent.
Ouais, bien vu. Je vous remercie d'être venu à Cour à Scrap, les amis. Vous êtes toujours les bienvenus.
C'est un plaisir.
Merci.
Tiens que les chiens de la Cour à Scrap qui sont fatigants, là, quand t'arrives.
Ouais, hein.
Hey, ah, des gros Rottweilers qui t'empêchent de voler des pièces de char.
Ben, coup de pied puis coup de saucisse, on passe au travers. Je vous laisse dans les mains des Everly Brothers.
Bye.
boy, hein, vous aurez peut-être reconnu le thème de Robin Stella. Robin Stella. Ça c'était viril, hein, sapristi. Tellement viril là, que Robin était joué par une fille. Bon, déjà que l'univers entier des jeux vidéo subit des préjugés d'une bonne partie de la population, surtout de la part du beau sexe, allez savoir pourquoi. En plus, au sein de la trop petite famille des gamers, le GameCube est victime de préjugés, allez savoir pourquoi, x2. True, les couleurs sont souvent éclatantes et les jeux offrent des thématiques plus enfantines. Mais pourtant, la qualité, ça reste la qualité. Je suis, et serai, j'espère toujours, de la casse de ceux qui priorisent le contenu au contenant. C'est pourquoi je le dis haut et fort, Nintendo rules. Et je le crois en plus. Vraiment, le monde des consoles a changé pas mal dans les 5 dernières années. Avec la venue sur le marché du géant Microsoft et de son Xbox, de la sortie en 2000 du PlayStation 2, du GameCube en 2001 et de la disparition du Sega de l'univers des consoles, c'est un euphémisme de dire que les choses ont bougé. Je crois cependant que Nintendo est la seule de ses compagnies à avoir réussi à améliorer son standard de qualité dans ces mêmes 5 dernières années, plutôt que de le diminuer. Nintendo a réussi à demeurer loin du phénomène de lunettes de soleilisation, c'est-à-dire le phénomène qui consiste à faire porter des trench coats et des piercings à presque tous les héros pour les rendre tellement plus cool et modernes. Paper Mario 2 est sûrement la consécration de ce que je viens d'avancer. Système de combat facile à apprendre, mais compliqué à maîtriser. Une histoire légère relatant les aventures de personnages attachants déjà célèbres. Graphique aux couleurs flamboyantes, mais surtout un gameplay simple et rarement égalé. En somme, Paper Mario 2 reprend là où le premier volet au Nintendo 64 s'était arrêté, c'est-à-dire au cœur de l'Éden du pur bonheur jeu vidéesque. Résumé de l'histoire, 2 points. La princesse se fait kidnapper par Mario et Mario doit la sauver. Cette fois-ci, pourtant, ce n'est pas l'usuel Bowser, roi des Koopas, qui a kidnappé cette icône du sex appeal féminin qu'est la princesse Peach. C'est plutôt Grodus, un mystérieux androïde. Quelle est la différence entre un cyborg et un androïde? Un androïde est un être à 100% synthétique, un robot auquel on donne une apparence humaine. Parmi les androïdes les plus célèbres, on peut noter Astro le petit robot, Lac Petit Aralé, création du Dr. Slump, Daryl, Serge 2 et le Terminator. Les cyborgs, quant à eux, sont des êtres humains auxquels on a greffé des parties cybernétiques. Peu importe la quantité de matériel greffé ou le nombre de cellules biologiques originales qui demeurent dans l'entité. Robocop ainsi que le collectif Borg de Star Trek sont parmi les plus célèbres cyborgs. Qui a enlevé la princesse alors qu'elle était sur les traces d'un fabuleux trésor? Soit le moyen d'ouvrir la porte de 1001, Thousand Years Door. N'écoutant que l'habitude, Mario saute à pieds joints sur l'aventure et rentre dans le tas de méchants androïdes, aidés d'une nouvelle bande d'amis solides, dont un Goomba, un Bob-omb et un bon vieux Yoshi. Je gâche peut-être un peu le punch, mais Bowser lui-même se met de la partie. Jaloux, oh le vilain, jaloux de s'être fait devancer par un inconnu à son éternel projet de kidnappage de Peach. Les séquences durant lesquelles on a le contrôle du dit Bowser font vraiment plaisir à un vétéran du domaine comme moi. La quantité de mini-games et de missions parallèles, l'excellence des dialogues et la variété des pouvoirs que Mario possède devraient sûrement réussir à convaincre le plus viril et superficiel des gamers du plaisir inhérent à Paper Mario 2. En plus, comme si tout cela n'est pas assez, la princesse Peach elle-même, mon tout premier fantasme sexuel, j'avais 11 ans là, se pavane nu devant nous à un moment donné dans le jeu, promis. Pour Paper Mario 2, 8 sur 10. Peut-être 8.5. Je sais pas. 8 sur 10.
I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that sera menacée par la violence et que l'âme des êtres humains s'éteindra. La vie des adolescents sera réduite à néant avec l'apparition des Neon Maniacs.
Non. Alors, tu n'as jamais... Oh, pourquoi c'est un crime de ne pas le faire?
Non.
Mais tu arrives à tenir? Oh. Mais le sexe n'est pas tout, Lisa.
Steven Elliott pourrait peut-être t'aider.
Oh, fiche-moi la paix, ok, Lisa?
D'accord. Mais je suis persuadée que tu es la seule vierge de San Francisco.
Qu'est-ce qui se passe?
J'ai vu quelque chose là-bas.
Ouais.
Des plumes. Des plumes de toutes les couleurs.
Ah, tu dois être amoureuse. Tout le monde sait que ce métro est plein de volailles.
Non, je suis sérieuse, Steven. Oh, je dois être nerveuse.
Tu veux que je te dise un secret? Moi aussi.
Tu sais que tu es romantique.
J'ai ça dans le sang. Vous allez assister à un concours de rock. Un concours à mort. Silence. Avec le groupe Dehors la Loi. Je voudrais vous présenter aussi notre jury de ce soir qui n'est composé que de belles nanas. Et voici le second groupe, les Anges de l'Enfer. Vous devez vous demander à quoi servent ces pistolets à eau. Eh bien, vous le saurez plus tard dans la soirée. Et place à la musique.
Let me ruin your evening, the stranger said to me.
Ouais, c'est pas très long les extraits encore une fois cette semaine, mais c'était pour introduire le sujet du présent film, c'est-à-dire Neon Maniacs. Parce qu'il y a des choses qui se font pas. Je crois que d'essayer de faire peur aux gens avec des zombies qui se tuent avec de l'eau en est une. Comment une créature qui est à un glavio en plein visage près de mourir peut-elle faire peur à quoi et à qui que ce soit? La Terre est un monde d'eau. L'eau est dans les airs et dans le sol. Comment peut-on faire pour fabriquer un zombie destructeur invincible qui n'a que seule faiblesse l'eau? Imaginez une grosse envie de pisser, puis il n'y a plus de problème. Un gun à l'eau, vous êtes invincible. Il pleut, l'ennemi est anéanti. Un robinet, une hose, une bière et un bataillon ennemi au complet y passent. En plus, j'y pense, le sang, c'est à plus de 98% d'eau. Je pourrais le tuer s'il me graffigne trop profond avec ses griffes. Come on! Encore une fois, les extraits furent courts. Marre de plutôt visuel qu'auditif, le concept stupide de Neon Maniacs, c'est que 12 zombies, chacun affublé d'un stéréotype facile, genre le robot, le docteur, le boucher, l'archer, le barbare, la brute, etc., décident de bouffer des jeunes ados qui ont du sexe ou qui font le party avant leur temps. C'est tellement nouveau. Film fiction produit par ISV, la maison spécialisée dans les tristement célèbres faits vécus, Neon Maniacs n'a rien à enlever au plus grand classique du psychotronisme, fût-il Toxic le Ravageur ou Les Tomates Tueuses. All in all, un bon douteux d'horreur qui n'a rien à voir avec le psychotronisme pour cause de drôles involontairement chroniques. Neon Maniac, -7.5 sur 10. C'est le jour et la nuit. On reste dans les années 80. Ouch.
Je crois que c'est bon, là. Allez, on s'en va. Écoute, si on doit rester copains tous les deux, j'aimerais autant que tu me présentes d'autres lascars, genre braqueurs, voleurs, c'est vrai, quoi. Il y en a marre des ninjas. Tu sais depuis combien de temps je me frite avec ces mecs-là? Ça fait un bail, mon pote.
Thank you.
time later, getting the words wrong, wasting the meaning, losing the rhyme. It's nauseous adrenaline, breaking up a dogfight like a deer in the headlights, frozen in real time. I'm losing my mind. It's time to move on, time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on, it's time to get going.
Juste avant, c'était le thème final du générique dans American Ninja 3. Un excellent film. On n'oublie pas d'acheter son étlune. On n'oublie surtout pas d'acheter son étlune. Vous avez vu, hein? On a fait la première page du métro. C'est pour ça qu'il faut pas oublier d'acheter son étlune. Parce que sinon, je le répète une autre fois. Puis si jamais ça vous tente de faire un don à Clowns sans frontières qui amène le bonheur et la joie et le sourire aux personnes qui en ont moins, aux plus nécessiteux, les enfants de pays, notamment Haïti, s'il vous plaît, 596-1203, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants d'Haïti qui en arrachent pas mal ces temps-ci. Je vous remercie, c'est déjà la fin d'une autre émission. J'ai voulu faire jouer du Bob Dylan, Teenage Mutant Kung Fu Chicken, mais ça va être pour la semaine prochaine. Puis la semaine prochaine, on va avoir Torgal, parce que ça fait longtemps à petit pépère que j'ai pas parler de bande dessinée. Un film avec Billy Blanks, celui qui faisait les annonces de Subway, qui a inventé le Taibo. Sûrement un film de Billy Blanks avec Roddy Piper. Ouais, ouais, le lutteur canadien du Manitoba, là, Roddy Piper, qui a fait des longs métrages. Excellent. Nick devrait venir nous parler de littérature. On va avoir un jambon aux ananas, parce que le temps des fêtes s'en vient. Un authentique ninja en entrevue. Oh oui, un ninja en entrevue. Et attention, salade de fruits. Deux totombes. Oui, ça existe, vous avez bien entendu. Salade de fruits. Deux totombes. Là, ça va être les Goonies. De Goonies 2, en fait. Un jeu de NES encore. Ça, c'était le bon vieux temps.
la radio Internet bio sans gras, sans sucre et sans CRTC. Puis on est bien chanceux.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Suo de surveillance ici sur la radio de Choc FM. Alors bonjour Guillaume, est-ce que t'as passé une belle semaine?
Non.
Pourquoi donc Guillaume? Pourquoi t'as pas passé une belle semaine?
Diverses raisons.
Ouais, ça a pas été facile, la température a pas été super belle et puis il y a eu des nouvelles vraiment déplorables.